VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Bamako, midi à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Le groupe Al-Mourabitoun revendique le rapt de l'otage roumain enlevé le mois dernier au Burkina Faso. Dans un enregistrement audio sur cette affaire, l'un des chefs de l'organisation confirme aussi sa dissidence par rapport à l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Le point avec Anne Albertson.
L'enregistrement audio est diffusé par le site mauritanien Al-Akbar, qui relaie régulièrement les revendications des djihadistes. On peut entendre un homme disant parler au nom d'Adnan Abou Walid Sahraoui, émir d'Al-Mourabitoun. L'auteur de cet enregistrement en arabe appelle le gouvernement roumain à accorder une attention sérieuse aux négociations au sujet de la libération de l'otage détenu par le groupe. Le Roumain, officier de sécurité dans une mine de manganèse de Tambao, dans le nord du Burkina Faso, avait été enlevé le 4 avril par des hommes armés non identifiés. À noter que le message audio se conclut par une réitération de l'acte d'allégeance au groupe État islamique, proclamé la semaine dernière au nom d'Al-Mourabitoun par Adnan Abou Walid Sahraoui, et aussitôt démenti dans un communiqué attribué à Mokhtar Belmokhtar. Cela montre les dissensions persistantes au sein du groupe djihadiste.
La lutte contre l'Ebola en Afrique de l'Ouest, le nombre de cas continue sa tendance à la baisse en Sierra Leone, l'un des pays les plus affectés par l'épidémie. Un déclin dû en partie aux efforts préventifs des dignitaires religieux. Lionel Gaïma.
La Sierra Leone est un pays d'une grande ferveur, mais aussi d'une grande tolérance, chrétiens et musulmans se respectant mutuellement. Leur dignité religieuse pousse cette collaboration plus loin en travaillant ensemble pour éradiquer l'Ebola. Dans les mosquées et les églises, ils citent des passages du Coran ou de la Bible à l'appui de leur message de sensibilisation. Cette idée a été lancée par une ONG locale ayant reconnu l'importance de travailler avec des leaders religieux respectés dans leur communauté. Les gens étaient réticents à l'idée de mettre en quarantaine les malades de l'Ebola jusqu'à ce que cette nécessité soit expliquée à l'Église, se rappelle la révérende Christina Sutton Koroma.
C'est un élément clé que nous disent les Saintes Écritures dans les Lévitiques, à savoir que si quelqu'un est atteint d'une maladie infectieuse de la peau, cet individu et la communauté doivent être placés en quarantaine.
Après ces explications de la révérende Koroma, les gens ont commencé à écouter et mieux comprendre le message contre le virus Ebola, témoigne Lamarou Camara, une de ses ouailles.
J'ai vu beaucoup de changements au sein de ma communauté et nous rendrons grâce à Dieu pour les précautions que nous prenons tous maintenant.
Le docteur Ramadan Diallo, imam d'une mosquée de Freetown, trouve lui aussi des exemples dans le Coran pour prêcher contre la fièvre hémorragique. L'islam met en garde contre toute chose qui menace la vie d'un individu. Ainsi donc, si vous devez toucher et laver un corps et cela va créer un problème, alors l'islam met en garde contre cela. L'ONG World Vision a mis en œuvre à travers le pays une initiative similaire impliquant les leaders religieux. La fièvre hémorragique à virus Ebola a tué plus de 3000 personnes en Sierra Leone depuis son apparition il y a presque un an.
La crise au Burundi maintenant, poursuite des manifestations à Bujumbura contre un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza. Par ailleurs, une délégation de chefs d'État et de gouvernement des pays des Grands Lacs sera bientôt au Burundi. Décision prise lors du sommet extraordinaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, hier à Luanda, en Angola. Plus de précisions avec Chérubin Dorsil.
Le communiqué final que cite l'AFP précise que cette délégation sera composée de l'Afrique du Sud, du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie et ira évaluer la situation en vue de contribuer à une résolution pacifique de la crise. Nous exhortons le gouvernement burundais à travailler au rétablissement rapide d'un environnement pacifié et sûr afin d'encourager le retour des réfugiés, ont ajouté les auteurs du communiqué. Les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL ont condamné la tentative de coup d'État contre le président burundais Pierre Nkurunziza, mais ont cependant appelé au report des élections, joignant ainsi la position des leaders de la communauté est-africaine qui s'étaient réunis la semaine dernière à Dar es Salaam. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à Luanda se sont aussi prononcés sur la situation en République centrafricaine, appelant à maintenir le soutien au gouvernement intérimaire centrafricain que dirige la présidente Catherine Samba-Panza.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le mouvement anti-immigrant en Afrique du Sud. Victime de violences xénophobes le mois dernier, les immigrés d'Afrique du Sud font maintenant face à des contrôles de police musclés, souvent suivis de détentions dans le cadre d'une opération de police contre la criminalité. Plus de détails avec Marc Bakfou, président du Forum de la diaspora africaine d'Afrique du Sud, au micro de Timothée Donangmaï.
Cette opération qui est censée lutter contre la criminalité, on ne nous dit plus combien de criminels ils ont arrêtés lors de l'opération, mais plutôt on nous donne le nombre des migrants illégaux qu'ils ont arrêtés. À Pretoria, il y a eu près de 3800 migrants qui ont été arrêtés. Et c'est comme ça depuis les jours passés. La communauté est encore une fois déboussolée après les violences qu'il y a eu, où on pensait que le gouvernement sortait pour calmer les choses. C'est maintenant le gouvernement qui ramasse les gens. Et même quand tu as tes papiers, tu n'es pas sûr de ne pas être arrêté.
Un taux de chômage de 24% en Afrique du Sud n'aide pas vraiment la situation.
C'est le gouvernement qui doit donner l'emploi à ses citoyens. Ce n'est pas aux migrants de créer les emplois. Ce n'est pas en chassant forcément les étrangers qu'il y aura des emplois. Les étrangers ne travaillent pas dans l'administration sud-africaine. Les étrangers ne se retrouvent pas dans les compagnies sud-africaines. Donc pour nous, le gouvernement déplace le sujet pour faire croire aux citoyens sud-africains qu'ils les écoutent, qu'ils sont en train de faire en sorte que les migrants ne soient pas en Afrique du Sud, pour les rassurer.
Marc Bafou, président du Forum de la diaspora africaine d'Afrique du Sud, joint à Johannesburg par Timothée Donangmaï. L'immigration illégale en Europe maintenant, l'Union européenne déclare la guerre aux passeurs des migrants en Méditerranée en donnant son feu vert à une opération navale sans précédent, Michel Joseph.
L'opération militaire a été décidée d'un commun accord entre les 28 ministres des Affaires étrangères pour lutter contre les réseaux de passeurs et trafiquants qui, selon les termes du secrétaire d'État français aux Affaires européennes, Harlem Désir, mènent des migrants à la mort. Les Européens pourront donc lancer dès juin la détection et surveillance de filières de l'immigration par une collecte d'informations et des patrouilles en haute mer. Toutefois, toute opération plus musclée devra attendre l'adoption d'une résolution à l'ONU. Premier couac, le gouvernement libyen, reconnu par la communauté internationale, a rejeté hier dans la soirée toute opération militaire contre l'immigration clandestine n'ayant pas reçu l'aval des autorités libyennes, affirmant que la Libye n'accepterait aucune violation de la souveraineté territoriale.
La guerre contre le groupe État islamique en Irak, le Pentagone promet la reprise de Ramadi, le chef-lieu de la province d'Al-Anbar, tombé dimanche entre les mains de l'État islamique. Pour le gouvernement irakien, c'est non seulement une défaite cuisante, mais aussi l'effondrement de la politique de rapprochement intercommunautaire pour faire face au groupe djihadiste. Idriss Fall.
Le premier ministre irakien Haider El-Abadi, chef des armées, avait voulu mettre sur pied une force multiconfessionnelle. Avec le soutien de Washington, il a essayé de faire de la province sunnite d'Al-Anbar une zone où des groupes émanant de différentes tribus pourraient faire leurs preuves. La chute de Ramadi a anéanti ses efforts.
Le premier ministre Al-Abadi a demandé aux milices chiites de l'aider à reprendre Ramadi, qui est à majorité sunnite. Les miliciens se concentrent actuellement aux environs de la ville pour soutenir une contre-offensive gouvernementale. Actualité américaine, en visite à Camden dans l'État du New Jersey, le président Barack Obama a annoncé hier la limitation et l'encadrement plus strict des équipements militaires utilisés par la police. Objectif, recréer un climat de confiance entre les forces de l'ordre et les communautés locales parfois traumatisées par la présence d'armes de gros calibre aux mains des policiers lors de troubles locaux. Claire Morin-Gibourg.
Le choix de Camden, une des villes les plus pauvres et les plus violentes des États-Unis, n'a pas été laissé au hasard pour l'annonce du nouveau décret présidentiel. Les forces de police ont désormais l'interdiction d'utiliser des véhicules blindés à chenilles, des lance-grenades, des uniformes de camouflage ou certaines armes et munitions de gros calibre. Une décision qui vise à restaurer la confiance entre la population des quartiers sensibles et les forces de l'ordre. Barack Obama.
Nous avons vu comment des équipements militaires peuvent parfois donner aux gens le sentiment d'être en face de forces d'occupation au lieu des forces de l'ordre qui font partie d'une communauté qu'elles se doivent de protéger et servir.
L'encadrement des armes autorisées sera également plus rigoureux.
Et pour terminer, Rénal Luzier, le caricaturiste, y avait dessiné le portrait du prophète Mohamed pour la page de couverture de Charlie Hebdo, annonce son intention de quitter l'hebdomadaire pour cause de stress.
Soyez au cœur de l'info.